Chapitre 30. Une fois que les éclaireurs eurent trouvé un chemin, l'ascension se révéla plus facile que prévu. Si facile même, que la jument put la négocier sans prendre de risque, et laisser Richard où il était fut un gain de temps pour les fugitifs. Les mollets mis à la torture par la course précédente, sans parler de la bataille, Callan peina durant tout le trajet qui fut miséricordieusement court. Malgré tout, elle dut puiser dans ses réserves pour arriver jusqu'au bout. À force de manier l'épée, ses bras lui semblaient peser des tonnes. Avec un jour ou deux, inutile d'espérer que ses courbatures se calment, mais elle aurait été mal avisée de se plaindre. Qu'étaient quelques douleurs comparées au néant de la mort? Combien de fois avait-elle frôlé la faim depuis le début de la guerre? Et à présent, Richard et elle se trouvaient à quelques jours, peut-être quelques heures de traverser le voile. Au sommet de la pente, dans un paysage de montagne, le sol devint à peu près plat. Un petit lac qui coltait l'eau de la fonte des glaciers alimentait la source qui donnait naissance au ruisseau. Un éclaireur partit explorer la forêt au-delà de la zone marécageuse et deux autres se chargèrent des flancs. Revenant très vite, le premier homme fit le signal convenu. Trois étincelles avec son morceau d'acier et son silex. Invités à le rejoindre, les fugitifs contournèrent le lac aux berges semées de roseaux. Arrivés dans la forêt, ils suivirent l'éclaireur quelques minutes sur un terrain couvert d'aiguilles de pin, puis sortirent de la forêt et s'arrêtèrent au bord d'un ravin. À la lumière de la lune, on eût dit un serpent noir qui s'étendait à l'infini sur la droite comme sur la gauche. Pour sonder la profondeur du gouffre, Nietzsche envoya des flammes qui tourbillonnèrent dans le vide bien plus longtemps que Callan l'aurait cru. Découragés, les fugitifs reculèrent de quelques pas. L'abîme était bien trop profond et abrupt pour qu'ils puissent descendre au fond, et à première vue, il n'y avait aucun moyen de le traverser.
« On dirait bien que ça va être à droite ou à gauche. »
Callan sonda la forêt de l'autre côté du gouffre.
« Eh bien, nous n'avons pas l'embarras du choix. Coincé entre la gorge et le ravin. Mais si nous pouvions traverser, l'autre côté serait un endroit parfait pour nous reposer. Avec une telle défense naturelle, ce serait sans risque. »
« Désolé, mais j'ai oublié mes ailes à la maison, » marmonna le vieux sorcier.
Callan fut ravi de voir qu'il avait retrouvé son caractère bougon légendaire. Un brouhaha dans son dos incita l'inquisitrice à se retourner. Des soldats émergeaient de la forêt, d'autres leur flanquant de joyeuses tapes dans le dos. Callan reconnut les nouveaux venus. C'était le sergent Remkin et ses hommes, ceux qui avaient eu mission de bloquer toute retraite au Shuntuk.
« Remkin, comment as-tu fait pour t'en sortir? J'ai cru que vous étiez tous morts, avec toute la roche qui est tombée. »«
Fermez la porte, c'est révélé moins simple que prévu, »
dit le sergent avant de marquer une pause pour reprendre son souffle.
« Que veux-tu dire? Nous avons attendu le passage des derniers demi-humains, mais il en arrivait toujours. » Au bout d'un moment, nous avons eu peur qu'il y en ait trop pour qu'ils tiennent tous dans le défilé. Dans ce cas, nous aurions été incapables de les coincer et ça aurait saboté le plan. Puis nous avons vu le feu de sorcier loin devant nous. Ça les a ralentis, mais au lieu de battre en retraite, ils continuaient à avancer et d'autres guerriers sortaient de la forêt pour se ruer dans le défilé.
Ils y sont tous entrés ?
Voulut savoir Callan.
Au bout du compte, ils se sont tous jetés dans le piège ?
Le sergent acquiesça.
Quand le feu de sorcier s'est déchaîné, le sol commençant à trembler, nous avons décidé de passer à l'attaque. D'autant plus qu'on ne voyait plus de Shuntuk s'engager dans le passage. Bien entendu, nous avons patienté un moment, au cas où il y aurait des traînards, histoire de ne pas nous faire prendre à revers. Après quelques minutes, nous nous sommes mis en position à l'entrée du défilé. Malgré les flammes et les éclairs qui explosaient dans le lointain, les Shuntuk ne ralentissaient toujours pas. Mais nous étions prêts à les attaquer par derrière à présent. Sauf que, eh bien, deux sauvages sont revenus sur leurs pas, souriant de toutes leurs dents. Ouais, souriant, vous avez bien entendu. Puis ils ont commencé à s'en prendre à mes gars.
« De quelle manière ?» demanda Pfister.
Le sergent haussa les épaules, le regard vide.
« Je ne sais pas. Dit comme ça, c'est de la démence. Mais j'ai vu un homme qui semblait, comment dire, qui semblait fondre, »
avança Callan. Remkin enfronça les sourcils de surprise.
« C'est ça, oui. La peau de plusieurs de mes hommes s'est mise à fondre, puis leurs os se sont désolidarisés les uns des autres et il n'est plus resté qu'une infâme bouillie.
Et tu dis qu'il y avait deux Shuntuk souriants?
Deux, oui. Ça, j'en suis certain. Peut-être plus, mais je ne peux rien garantir. En tout cas, ces deux-là suffisaient. Essayer de tenir la position, ai-je compris, revenait à se suicider. La meilleure chance, m'a-t-il semblé, était d'essayer de vous rejoindre pour vous avertir du danger et combattre avec vous.
Je suis accablé de savoir que le sorcier que j'ai vu n'était pas le seul dans son genre,
dit Callan.
Tu as fait ce qu'il fallait, sergent. Face à de tels adversaires, il est impossible de combattre.
Vous y êtes pourtant arrivé, rappela Pfister. Vous avez tué celui qui s'en est pris à nous.
Peut-être, mais j'avais l'épée de Richard. Remkin et ses hommes se seraient fait massacrer pour rien. C'était la bonne décision. Ces deux guerriers, vu leur pouvoir, devaient être l'arrière-garde de la colonne.
C'est ce que j'ai pensé,
dit Remkin.
Après avoir tué plusieurs de mes gars, quand ils ont vu que nous nous dispersions, ils sont repartis dans l'autre sens, visiblement pour protéger les arrières de leur horde.
Comment avez-vous pu les contourner pour nous rejoindre?
Demanda Callan.
Ça n'a pas été facile. Mais comme moi, tous les hommes qui m'accompagnaient venaient de régions montagneuses. Ayant grandi dans des paysages de ce genre, nous savons nous y déplacer. En passant par les versants, puis par les crêtes, nous avons réussi à avancer très vite. Certaines crevasses se sont révélées de très précieux raccourcis. Nous tentions de rester en permanence en contact visuel avec le fond du défilé, afin de savoir où vous étiez. Puis nous sommes tombés sur ce ravin qui semblait mener dans la bonne direction, et il nous a fait gagner beaucoup de temps. Il part en oblique du haut d'un versant pour serpenter jusqu'ici. Nous n'avons pas exploré ses profondeurs, afin de ne pas perdre le défilé de vue autant que possible. Puis nous vous avons vu en train de gravir la pente qui mène hors de la gorge.
Nous savons donc que ce ravin dans une direction revient simplement en arrière.
Pas une très bonne nouvelle, ça.
Avez-vous vu si tous les Shuntuk sont restés dans le défilé? Certains n'ont-ils pas essayé d'escalader les versants, comme vous?
Nous sommes arrivés sur la crête après la fin du tir de barrage de feu de sorcier. Nous avons regardé en bas pour voir si les sauvages faisaient demi-tour, mais ils continuaient à charger. Avec les tueurs souriants qui couvraient leurs arrières, ils devaient se sentir en sécurité. Nous n'en avons pas vu un seul rebrousser chemin. Puis, il y a eu les explosions, les avalanches et enfin l'écroulement des murailles. Heureusement, nous étions déjà en train de suivre le bord du ravin. Même là, le sol tremblait parfois si violemment que nous avions du mal à tenir debout. De la folie! Les deux versants ont fini par s'effondrer, écrabouillant les demi-humains.
Tous?
Insista Callan.
De là où nous étions, c'est difficile à dire. Mais d'après ce que j'ai vu, les murailles rocheuses se sont écroulées sur toute la longueur de la colonne ennemie, et même un peu en amont et en aval. À la vitesse où c'est arrivé, je parierais qu'aucun sauvage n'a survécu. Personne ne peut être indemne sous des tonnes et des tonnes de roches. De plus, quand le calme est revenu, nous n'avons plus entendu de hurlements et pas davantage de cris d'agonie. Un silence de mort.
Une bonne nouvelle, souffla Pfister.
Peut-être,
concéda Callan.
Mais je me sentirais mieux si nous pouvions traverser ce ravin.
Dans ce cas, traversons-le,
lança Remkin comme s'il s'agissait d'un jeu d'enfant. Mais ce n'était pas le cas, et ils avaient tous oublié leurs ailes à la maison.
Nous ne pouvons pas traverser, dit Callan.
Faux, c'est très facile.
Facile?
Répéta l'inquisitrice.
Rien n'est jamais facile,
marmonna Zed. Remkin haussa les épaules.
Si je vous dis que oui.
Il désigna les grands arbres qui se dressaient non loin de là.
Le gouffre n'est pas si large que ça. Il suffit d'abattre un arbre et de s'en servir comme d'une passerelle. Une fois de l'autre côté, on pousse le tronc dans le vide et, même s'il y a des Shuntuk survivants, ils se retrouveront le bec dans l'eau.
Callan échangea un coup d'œil avec Pfister. Se sentait-il aussi idiot qu'elle en cet instant?
Oui, ça marchera,
fit le lieutenant. Parfait quand il s'agissait de cacher ses sentiments.
Une bonne idée, Remkin.
Et la jument?
Demanda Zed.
Comment la ferez-vous traverser?
Les chevaux ne font pas de l'équilibrisme sur les troncs d'arbres. Ça paraît moins facile à présent, pas vrai ?
Remkin ne se démonta pas.
Il suffira de placer un deuxième arbre près du premier, de couper des planches dans le tronc d'un troisième, puis d'improviser un pont. Les yeux bandés, la jument se laissera guider sans problème. Facile, je persiste et signe.
Quand nous serons passés, avec le nombre d'hommes dont nous disposons, il suffira de quelques cordes pour expédier le pont au fond du ravin.
Je n'ai jamais vu un Shuntuk armé d'une épée ou d'une hache. Avec des couteaux, il leur faudra un sacré moment pour abattre un arbre et nous suivre. Et s'ils tentent de contourner le ravin, ils ne sont pas encore rendus.
Callan échangea un autre regard accablé avec Pfister.
Sauf s'ils savent voler,
ajouta Remkin.
Facile me semble toujours un adjectif exagéré,
dit Zed.
C'est quand même beaucoup de travail.
Il croisa les bras.
Mais un peu de magie accélérerait les choses.
Je ne vous le fais pas dire, messire,
déclara Remkin en s'inclinant respectueusement.
Remkin, tu parais être l'homme de la situation,
dit Pfister.
Choisis des hommes et mets-toi à l'ouvrage avec l'aide de Zed. De l'autre côté, nous pourrons dresser un camp digne de ce nom. La nuit est déjà bien avancée et il ne faut plus traîner.
À vos ordres, chef.
Alors que Remkin partait sélectionner des hommes, Zed marmonna.
Je me fierais davantage au plan de ce sergent s'il n'avait pas l'air si jeune.
Callan se tourna vers Richard et lui posa une main sur le dos.
Nous serons bientôt en mesure de l'aider,
la consola Nietzsche. Callan hocha la tête, pas entièrement convaincue. Elle avait été dans les ténèbres où Richard se trouvait. Pour le ramener, le sorcier et la magicienne n'allaient pas avoir la partie facile.
« Nietzsche a raison, Callan, »
dit Zed.
« Nous le ramènerons, c'est juré. »
« Et les sorciers tiennent toujours leurs promesses ?»«
C'est aussi vrai que Verud verra. »